Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Leader français dans les solutions pour l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, avec entre autres la fabrication de lits médicaux, c'est la société Wincare et son directeur général Laurent Faugère nous la présente. Mondialement connue grâce à son vaccin contre le virus de la Covid-19, la société Moderna combattra et préviendra dans le futur de nombreuses maladies grâce à l'ARN messager. Et sa directrice générale France va nous le confirmer. Enfin, dernier flashback au salon Meditex qui s'est déroulé les 13 et 14 mars dernier, avec les interviews de Jessica Legge, CEO de Médicine Paris Région, de Franck Teboul, vice-président de Kelly Service, et Éric Vibert, chirurgien digestif et ambassadeur Santé France 2030. Check-up Santé, c'est parti. Laurent Faugère, bonjour.
Bonjour Fabien.
Et bienvenue dans Check-up Santé.
Merci.
Vous êtes le tout nouveau président de Wincare France depuis de l'année dernière, depuis 2022.
Le mois de juillet, tout à fait.
En revanche, Wincare existait avant, on va en reparler. C'est vrai que l'espérance de vie augmente, donc plus de personnes âgées et hélas, plus de patients en perte d'autonomie. L'idée, c'est de les maintenir à domicile ?
L'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'ils préfèrent, soit être en maintien à domicile, c'est à peu près 60% des patients qui font ce choix-là, soit aller dans des EHPAD et faire en sorte qu'ils soient accompagnés au mieux dans les EHPAD. Donc nous, notre métier, c'est d'apporter des solutions pour les patients en perte d'autonomie, qu'ils soient en maintien à domicile ou qu'ils soient en EHPAD.
D'accord, donc on va y revenir. Donc Wincare existe depuis
40 ans.
Depuis 40 ans. Une sacrée histoire, hein. Ouais. J'ai lu sur votre site. C'est une boîte franco-française ?
C'est une boîte franco-française qui s'est développée à l'international au travers d'acquisitions. Aujourd'hui, on est présent dans 50 pays au travers de notre export et on a 5 filiales à l'étranger. Et on a une grosse empreinte aussi, bien sûr, en France.
Et vous êtes le leader français, non ?
Donc, on est leader français dans nos domaines qui sont l'immédicalisés et qui sont les matelas dans la prévention de l'escarre. Et on a des positions assez fortes en Angleterre. On a fait une acquisition cette année pour se renforcer en Angleterre, au Danemark, en Pologne et en Espagne.
Et en Tunisie, j'ai vu.
Alors, en Tunisie, on a une usine de textile en Tunisie, tout à fait.
Alors, évidemment, j'ai vu, vous étiez en pleine croissance, quoi. Une entreprise qui roule.
Oui, tout à fait. On a doublé de taille, en fait, dans les deux dernières années. On est passé à 150 millions d'euros sur cette année.
Donc, vous avez l'impression, la barre est haute pour vous, là.
Exactement, exactement. Ouais. D'autant plus que je suis arrivé dans un contexte un peu particulier suite au décès de notre précédent président, Philippe Chen, en mars l'année dernière.
Que j'avais invité il y a quelques temps. Hein.
Tout à fait, qui est un acteur très important du dispositif médical en France. Et donc, moi, je suis arrivé dans cette situation assez compliquée, mais avec des équipes très mobilisées. Donc, on a réussi à passer une année difficile avec l'inflation. Et puis, comme très émotionnel suite au décès de Philippe.
Alors, votre cible, vous l'avez dit, ce sont évidemment les personnes âgées, enfin, les personnes qui sont en perte d'autonomie, c'est bien ça. Donc, c'est évidemment chez elles, c'est surtout, vous êtes avec les maisons de retraite, les EHPAD, comment ça se passe ?
Nous, on travaille avec les EHPAD et en maintien à domicile, et on développe un maximum de solutions pour ces personnes dépendantes qui sont dans la majorité des cas des personnes âgées, mais qui peuvent être aussi des personnes handicapées ou des personnes qui ont eu des traumas.
Alors, donnez-nous quand même des exemples de ce que vous produisez. Ouais.
Nous, on est dans trois grands domaines. Le premier, c'est l'immédicalisé, qui est très important à la fois à domicile et dans les EHPAD, parce que c'est là où les patients passent la majorité de leur temps.
Bien sûr.
On a aussi une solution pour la prévention de l'escarre. Comme c'est des patients qui sont alités, qui sont immobiles, ça crée des plaies de pression qui
faut accepter. C'est en lien avec le lit quand même, non ?
C'est lié en lien avec le lit, en lien aussi avec le matelas.
Bien sûr.
On essaie de faire des lits dans lesquels le patient peut bouger pour limiter les escarres. Et puis, on a aussi des matelas à air qui changent les points de pression pour éviter que les patients aient ces plaies qui sont très handicapantes. Puis, notre troisième domaine prioritaire, c'est la gestion des chutes. Les personnes dépendantes chutent beaucoup et ça apporte beaucoup de complications. Donc, on apporte des solutions que je pourrais un peu vous détailler qui permettent de réduire les conséquences des chutes.
D'accord. Et est-ce que tous les progrès technologiques ont fait que vos objets sont différents, les mobiliers sont différents.
On essaie d'innover
dans la connectivité.
On essaie d'innover dans tous les domaines. D'autant plus que nous, on a plusieurs interlocuteurs quand on définit nos innovations. On a bien sûr le patient et le résident qui est au cœur de notre innovation, dans lequel il faut du confort, il faut de la sécurité, il faut éviter des formations d'escarre. Mais on a aussi les professionnels de santé, les soignants. Il faut faire des solutions extrêmement simples et des solutions aussi qui leur apportent de la sécurité. sécurité, de la confiance, et puis aussi des TMS, parce que c'est des soignants qui portent beaucoup de patients, ça donne des douleurs dans le dos, donc ça c'est dans la conception de nos produits. On a aussi les familles, c'est
voilà, pas toujours on facile. On les oublie souvent, hein, les, après il y a les patients, les soignants, les familles, et il y a aussi les aidants.
Les aidants, les familles qui ont un rôle important et qui va devenir de plus important, et puis le système de santé, parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées et dépendantes, il va falloir financer la dépendance, et donc il faut aussi trouver des solutions qui soient... efficiente. Et donc un exemple de solution digitale, par exemple, qui est dans le domaine de la chute. Alors la chute, c'est un enjeu majeur. Il y a ces personnes âgées, elles chutent souvent. C'est 130 000 hospitalisations, 10 000 décès suite aux chutes. Un enjeu de santé publique aussi financier.
C'est vrai qu'au grand âge, il y a toujours avant et après la chute.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc nous, on a développé une solution. Et l'enjeu, c'est de prendre en charge très rapidement le résident quand il a chuté. Sauf que souvent, il chute la nuit. C'est là où il peut y avoir 2-3 soignants dans un EHPAD de 70 personnes.
Il n'y a pas suffisamment de personnel.
On ne peut pas être toujours dans la chambre du résident. Et donc, on a développé une housse connectée qui alerte immédiatement le soignant quand le patient n'est plus dans son lit. Et ce qui permet de prendre en charge le patient en 2-3 minutes. Et ça réduit considérablement les complications et les hospitalisations. Donc, on a un partenariat avec Orpea. Dans ce domaine-là, on a déployé dans la moitié des EHPAD sur les 6 derniers mois. On a plus de 800 patients qui sont protégés. Et ce qui est bien sûr pour les patients, mais c'est aussi très rassurant pour les soignants et aussi pour les familles qui ont de la traçabilité et qui savent quand est-ce que leur aîné est tombé et quand est-ce qu'il a été pris en charge. Okay. Et donc ça, le digital, ça apporte des données, ça apporte de la prédictibilité peut-être aussi demain pour non seulement gérer plus facilement les chutes, mais même les éviter.
Les prévenir.
Exactement.
Alors, vous avez un label Handy Management.
Oui, tout à fait. Alors, dans nos objectifs d'entreprise qu'on s'est fixés, il y en a plusieurs. Il y a la réduction de l'empreinte carbone, mais il y a aussi être dans un environnement qui favorise l'accueil des travailleurs handicapés, que ce soit des gens actuellement dans l'entreprise et qui ne sont pas forcément déclarés leur handicap à l'entreprise, ou que ce soit des personnes qu'on veut recruter. Et pour ça, notre conviction, c'est pour être dans un environnement dans lequel les travailleurs handicapés puissent se sentir bien, ça passe avant tout par la formation du management. Parce que, à titre personnel, c'est un sujet que je connais bien et sur lequel j'ai vraiment envie de m'impliquer en tant que chef d'entreprise. Et je sais les difficultés que ça peut être. On sent qu'il y a beaucoup de volonté dans notre entreprise, mais il y a forcément des a priori.
Des fonctions particulières, puisque un handicapé peut-être...
Il peut y avoir
peut ne pas porter un patient lourd ou...
Il peut y avoir... plein de formes de handicap, et la plupart des handicaps sont pas forcément visibles. Et nous, notre volonté, donc c'est pour ça qu'on a créé on a fait un partenariat pour former nos managers à la gestion du handicap, pour surmonter un peu les a priori qu'on pouvait avoir, et pour gérer des situations qui peuvent être parfois un peu déroutantes ou compliquées. Et notre conviction, donc on a commencé ça avec le COMEX, avec les directeurs des sites industriels principaux, et on est persuadé que si nous on se sent plus à l'aise pour travailler avec des personnes handicapées, peut-être que les personnes handicapées seront plus à l'aise pour venir rejoindre dans notre entreprise, et puis on le déploiera plus largement à l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent bénéficier de cette formation.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance.
Merci
beaucoup, Laurent Faugère.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Sandra Fournier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes pharmacien, vous avez sévi de nombreuses années dans les biotech et l'industrie pharma, Janssen, Boehringer, Takeda et j'en passe. Et aujourd'hui, vous dirigez la filière France de Moderna. Vous êtes évidemment mondialement connu et vous êtes pourtant un laboratoire récent.
Alors récent, pas si récent que ça. Moderna a été fondée en 2010 et de 2010
par rapport à d'autres.
Tout à fait. Donc mes 10 ans d'expertise et de savoir-faire sur la technologie à l'ARN messager.
Avec un PDG quand même charismatique.
Un PDG français d'origine marseillaise, Stéphane Mancel.
D'accord. Vous êtes implanté évidemment aux US. Est-ce que vous envisagez à l'avenir de vous implanter ailleurs, en Europe, en France?
Alors nous sommes implantés en Europe et en Asie, à travers le monde. Il y a 17 filiales qui ont été ouvertes. Moi, je suis la première directrice générale arrivée en Europe en juin 2021 et j'ai ouvert la filiale française dans la foulée.
Et des sites de production bientôt ailleurs qu'aux États-Unis ou pas?
Alors c'est en cours de discussion pour ouvrir d'autres capacités de production à travers le monde. On est à un tournant de notre développement. Mais je voudrais rappeler qu'en 2020, on n'était que 800 scientifiques qui travaillaient sur la technologie à l'ARN messager.
Et
en un temps record, on a non seulement réussi à mener le développement de notre candidat vaccin pour apporter une solution aux enjeux de la pandémie, mais également réussi à construire notre première usine de production et à produire et à livrer dans le monde en 2021 807 millions de doses de vaccins.
Alors justement, on peut dire qu'il y a un triple exploit. C'est un exploit scientifique, un exploit économique, un exploit industriel, puisque jusqu'en 2020, vous n'étiez que des chercheurs, en fait.
On était 800 chercheurs chez Moderna, à travailler sur cette technologie. Oui, ouais, des scientifiques qui travaillaient sur cette technologie à l'ARN messager, qui semblait très prometteuse. Mm-hmm. Ils ont raison. Moi, je suis convaincue que ça va être une révolution et qu'on est vraiment à l'aube. Le champ des possibles est immense.
Alors, avant de parler du reste, là aussi, exploit donc la fabrication de votre vaccin contre le Covid-19 en un temps record, c'est ça, non ?
Alors, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, le séquençage du virus de la SARS-CoV-2 a été mis à disposition sur le net en janvier 2020. Il nous a fallu 48 heures pour mettre au point le brin d'ARN messager et ensuite 42 jours pour produire le premier lot de candidats vaccins pour les essais cliniques. La suite, vous la connaissez, 9 mois d'essais qui aboutissent à une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament en janvier 2021 et 807 millions de doses de vaccins produites et livrées en 2021.
Je dis toujours à mes patients qui ont peur, ils ont toujours peur des vaccins, d'innovation, des nouveautés, que l'ARN messager, c'est comme si vous vouliez faire une recette de cuisine, vous ouvrez un bouquin de cuisine, vous photocopiez la recette, mm-hmm. et puis ensuite vous faisiez votre recette, et ça n'abîmait pas du tout le bouquin. C'est la même chose pour les cellules, puisqu'on sait que l'ARN messager n'abîme pas la cellule, il ne rentre pas dans le noyau.
Alors l'ARN messager n'est jamais en contact avec l'ADN, donc ne modifie pas le patrimoine génétique, et ce qui est important, c'est quand vous êtes vacciné avec un vaccin ARN messager, en 2 à 3 jours de temps, il n'y a plus aucune trace du vaccin dans votre organisme.
D'accord, donc une technique vraiment différente des vaccins classiques.
Une technique complètement différente. Chez Moderna, nous, c'est que la technologie à l'ARN messager, que ce soit des candidats vaccins ou des solutions thérapeutiques. Mais on va en reparler.
Bien sûr. Donc si vous avez produit à peu près 800 millions de vaccins, mm-hmm. vous avez traité, vacciné près de 800 millions de personnes ou pas ?
Plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde.
Puisque des patients ont été vaccinés une fois, deux fois.
Notre vaccin Spikevax a été approuvé et est actuellement livré dans 70 pays à travers le monde.
D'accord. Et est-ce que vous adaptez le vaccin évidemment aux variations évidemment des variants?
Ah, tout à fait. Donc c'est le rôle de nos scientifiques chez Moderna, c'est vraiment de suivre l'évolution du virus. Vous savez, un virus comme le virus de la grippe, les virus respiratoires mutent, évoluent en permanence, mm-hmm. donc il faut rester vigilant et également vigilant quant à l'émergence des nouveaux variants. Et notre plateforme à l'ARN messager, elle est extrêmement flexible, elle nous permet de nous adapter, d'être extrêmement agile et de mettre à disposition des candidats vaccins adaptés en fonction de l'évolution.
Ça veut dire que si vous avez un nouveau variant, c'est en 48 heures aussi que vous réalisez ce vaccin.
Exactement, c'est ce qu'on a fait pour la campagne de l'automne 2022. On s'est adapté. Au mois de juin, on a mis au point un candidat vaccin bivalent. Pourquoi bivalent ? Parce qu'il avait deux brins d'ARN messager qui codaient pour les deux souches, la souche sauvage et le principal variant qui circulait, Omicron, dans le même vaccin.
Est-ce qu'on va prévoir une vaccination régulière comme le vaccin de la grippe ?
Alors ce qu'on sait, c'est que le virus il continue d'évoluer, de muter. Donc en évoluant, continue à exercer une pression sur le système immunitaire. Donc le taux d'anticorps neutralisant diminue. Donc c'est important régulièrement de continuer à booster. Nous par contre, on adapte nos candidats vaccins. On fournit des données d'efficacité et de tolérance qu'on donne bien sûr ensuite aux autorités sanitaires et au gouvernement. Et c'est eux qui prennent les décisions de vaccination,
bien sûr.
Quand, pour qui.
Parce est-ce qu'on peut imaginer que l'efficacité du vaccin s'allonge avec le temps? Parce que c'est vrai qu'on a dû vacciner parfois tous les 4 mois, tous les 5 mois, tous les 6 mois.
Alors déjà, notre candidat vaccin bivalent, il permet d'avoir une couverture beaucoup plus large, puisque avec ces deux brins d'ARN messager, il permet de couvrir une panoplie plus importante de variants. Mmh. Et on a vu que l'immunité conférée durait plus longtemps.
Alors l'ARN messager, c'est pas que le Covid, la Covid-19, c'est... Elle a un produit fabuleux, non ? Qui a un potentiel
fabuleux.
Incroyable.
Moi, ça me fait rêver.
Guérir ou prévenir des maladies.
Guérir ou prévenir. Donc, vous voyez, on parlait des chiffres. En 2020, on était 800 chercheurs, des scientifiques, une vingtaine de candidats à vaccins. Aujourd'hui, Moderna, c'est 48 programmes de R&D. Donc, des candidats vaccins, des solutions thérapeutiques, tout à base de la technologie ARN messager. Donc, ils sont en développement sur notre plateforme à l'ARN messager, dans de nombreux aires thérapeutiques. Donc, les virus respiratoires, on en a parlé. On a également des candidats vaccins contre la grippe et également contre le virus respiratoire syncytial, vous le connaissez, ce fameux VRS qui est responsable de l'épidémie de bronchiolite chez les nouveau-nés, mais qui peut aussi causer des infections respiratoires graves chez le sujet âgé. Notre ambition, c'est d'arriver à combiner 3 en 1, un vaccin qui pourrait protéger contre les 3 principales pathologies hivernales que sont grippe, Covid et virus respiratoire syncytial. On a également un pool virus latent. Ces virus, une fois qu'ils vous ont contaminé, ils restent cachés dans votre organisme et ils peuvent se réveiller à l'occasion d'une baisse de l'immunité, par exemple. On retrouve le cytomégalovirus, le CMV, qui est dangereux pour la femme enceinte, puisque lorsqu'il contamine la femme enceinte, c'est le premier risque de malformation congénitale chez le nouveau-né. Vous avez l'Epstein-Barr virus, je suis sûre que vous l'avez eu, Fabien, quand vous étiez jeune. C'est la maladie du baiser,
la
mononucléose.
J'ai eu en première année de médecine, catastrophe.
Ah.
Bon, ça m'a pas empêché de l'avoir, mais c'était une catastrophe quand même.
Et il a été montré que lorsque vous avez été contaminé et que vous étiez porteur donc de l'EBV, l'Epstein-Barr virus, vous aviez 32 fois plus de risque de développer une sclérose en plaques à l'âge adulte. Donc, vous voyez, typiquement, pour ce virus-là, on développe non seulement un candidat vaccin pour prévenir la contamination, l'infection par l'Epstein-Barr virus, mais également une solution thérapeutique pour guérir les séquelles à long terme de ce vaccin.
Alors, est-ce qu'on peut rêver en imaginant que l'ARN messager puisse servir à prévenir certains cancers?
Vous avez vu, on a annoncé des résultats au mois de mars, extrêmement prometteurs. On a, en partenariat avec la société Merck, on a développé donc un traitement adjuvant à base d'ARN messager, couplé à leur Keytruda, ou versus Keytruda chez les patients qui sont atteints de mélanome en grade 3-4. Ça permet de réduire de 44% le risque de récidive ou de décès. Donc ça fait vraiment rêver, des espoirs très prometteurs dans le domaine du cancer.
Juste pour terminer, vous faites partie du collectif Femmes de santé. Vous parlez plus d'équité que d'égalité, en quelques mots.
Oui, l'équité, je trouve ça très important de parler d'équité, non pas d'égalité, entre les hommes et les femmes. Donc accès aux soins, on parle souvent de travail, d'accès au même type de travail, de salaire, etc. Mais c'est une équité sur les soins. On parle aussi de charge mentale, c'est la femme. Donc important de bien considérer la femme dans son ensemble.
Merci Sandra Fournier.
Merci Fabien.
Directrice générale de Moderna France. On va à présent retourner au salon Medintex avec Jessica Legge, CEO de Medicine Paris Région, Franck Teboul, vice-président de Kelly Service, et Eric Vibert, chirurgien digestif et ambassadeur santé France 2030. Jessica Legge, bonjour. Vous êtes directrice générale de Medicine. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la mission de Medicine?
Avec plaisir, bonjour. Donc Medicine, c'est le pôle de compétitivité santé de la région Île-de-France. C'est-à-dire qu'on est d'abord un réseau constitué de plus de 500 membres, les parties prenantes, publiques et privées, de l'innovation santé, en Île-de-France en particulier. Donc 430 start-up, TPE, PME, une quarantaine de grands groupes et ETI, une quarantaine d'acteurs académiques et cliniques, et puis des collectivités et acteurs du développement économique. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de faciliter le dialogue, d'animer le réseau et d'optimiser le développement de nouveaux produits de santé en faisant émerger les projets de recherche collaborative, en dérisquant les projets, en aidant les porteurs de projets à obtenir des financements publics, appels à projets régionaux, nationaux, européens et privés, en aidant les entrepreneurs à se préparer à leur levée de fonds, et puis à identifier aussi des zones de développement à l'international sur des zones géographiques clés.
Alors vous êtes partenaire de Medintex. Qu'est-ce que vous avez proposé ici? Quel programme avez-vous détaillé?
Alors on est ravis de l'organisation de ce salon puisque ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière les acteurs de l'innovation, en particulier autour de l'innovation chirurgicale, puisque Medicine a organisé le village de l'innovation chirurgicale avec un certain nombre de start-up qui sont venus présenter leurs innovations. Et c'est très important pour nous parce que la filière des dispositifs médicaux en France est très morcelée. C'est 93% de TPE, PME, donc qui ont besoin d'être mis en réseau. On a besoin de renforcer les liens entre les acteurs, les synergies interrégionales notamment, et donc les mettre en valeur ici. On a eu hier la présence de François Braun, donc on était très contents de cette occasion de les valoriser. On a aussi travaillé autour de la santé numérique, un atelier en ce moment même avec le tiers-lieu d'expérimentation BOPEX sur le bloc opératoire augmenté. Et puis dans le village emploi, on a beaucoup travaillé aussi en coordination avec Medintech pour faire remonter les besoins des acteurs de la health tech en termes de profil, de métier, et puis faire tout ce qu'on peut pour faciliter le développement de formations qui répondent à ces besoins-là.
Franck Teboul, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le vice-président international Life Science chez Kelly. Vous êtes une société de recrutement, c'est ça ?
Oui, absolument. Une société d'origine américaine présente dans 15 pays en Europe et spécialisée dans l'industrie des life science, donc la santé évidemment, la pharma, dans les dispositifs médicaux, la medtech évidemment, on est là aujourd'hui. Voilà, on est spécialisé dans le recrutement et on agit dans l'écosystème du recrutement des life science.
D'accord. Et j'ajoute que vous avez animé le village emploi de Meditex.
Oui, oui, absolument. On est là depuis hier matin. On voit plein de talents exceptionnels, de formidables startups aussi. Donc, c'est notre métier.
Alors, vous œuvrez dans divers domaines, mais aussi celui de la santé et des life science. C'est vrai qu'on a un gros problème en ce moment de pénurie de talents, c'est bien ça?
Alors, on a un gros problème de pénurie de talents qui est à mettre en parallèle avec quand même un horizon économique un peu compliqué en ce moment pour les entreprises. Et par rapport à ça, effectivement, des talents rares aujourd'hui, que ce soit sur des débutants ou des personnes seniors beaucoup plus confirmées, et sur l'ensemble de l'industrie des life science.
Alors, il y a une raison, il y a plusieurs raisons.
Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, des problèmes de formation. Ensuite, un problème, vous le savez, après Covid, télétravail. Et puis, on parle aussi du big quit. Hein, le big quit, c'est des gens comme vous et moi qui ont envie de faire autre chose que leur métier, j'allais dire, de formation. Et puis, donc du coup, il faut que les entreprises se battent de plus en plus pour pouvoir attirer ces talents.
Alors, justement, pour pallier à cette pénurie de recrutement, quelle est l'expertise de votre société ?
Notre expertise, c'est de mettre en contact et justement en connexion les talents qui sont rares avec les entreprises qui recherchent. Et donc, par rapport à ça, notre valeur ajoutée, c'est d'abord d'être des experts de ce métier, puisque 80% de nos recruteurs et consultants viennent de l'univers des life science ou sont issus d'une formation scientifique. Et donc, notre métier, c'est de conseiller les entreprises pour attirer ces talents. Et par rapport à ça, ce qu'on leur dit, c'est d'abord donner du sens au métier que vous proposez. Sachez les attirer avec une souplesse au travail, avec le télétravail, avec l'ensemble de dispositifs qui vont faire que les talents vont avoir envie de venir chez vous. Et d'ailleurs, on voit par rapport à ça, par des très grosses entreprises qui créent des entreprises plus petites, hein, des start-up, des spin-off, pour pouvoir attirer des jeunes qui ont envie de vivre quelque chose de différent.
Professeur Eric Vibert, bonjour. Vous êtes médecin?
Oui.
Hépatologue? Gastro-entérologue? Chirurgien hépatique. Alors présentez-vous.
Je suis le professeur Eric Vibert, je travaille à l'hôpital Paul Brousse, à l'université Paris-Saclay. En effet, je fais de la chirurgie hépatique et de la transplantation. Et je suis le créateur de la chaire innovation BOPA, qui est un objet un peu nouveau là, dans le domaine de l'innovation bloc opératoire.
Alors justement, quelle est la mission, quel est le principe de cette chaire BOPA?
La chaire innovation BOPA, c'est quelque chose qui a été créé en 2020 maintenant, donc ça a 3 ans d'existence. L'objectif est de réfléchir à une transformation humaine et technologique du bloc opératoire. Donc l'idée, c'est d'embarquer pas uniquement les chirurgiens, mais les chirurgiens, les anesthésistes et le paramédical du côté des anesthésistes et du côté des chirurgiens, donc des IBOD, avec une réflexion autour de est-ce que les chirurgiens vont se laisser augmenter. Donc c'est le côté un peu résilient du problème vis-à-vis de l'erreur et de tout ce qu'on connaît de la sociologie du bloc opératoire, et ensuite comment la technologie va pouvoir augmenter le bloc opératoire au sens large avec différentes approches.
Et la suite de BOPA, c'est BOPEX?
Et la suite de BOPA, c'est en effet c'est le campus BOPEX, donc c'est le tiers-lieu d'expérimentation campus BOPEX. L'idée, c'est qu'on fabrique des innovations un peu early stage au niveau de BOPA et ensuite on scale up, entre guillemets, au niveau de Campus BOPEX. Campus BOPEX, c'est pas localisé à Paul Brousse comme les BOPA. BOPA, c'est à Paul Brousse dans Saclay. BOPEX, c'est à l'APHP au sens large et c'est situé dans le campus Brousset qui est l'endroit où aura lieu la future école de chirurgie. Donc là, l'idée, c'est une entreprise vient nous voir. On est capable d'apporter un service qui est où est-ce qu'on va tester votre technologie, qui est une technologie un peu plus mature, hein, qui est proche finalement du marque HE ou même après le marque HE, pour pouvoir identifier l'intérêt de la technologie, l'utilisabilité, est-ce que les acteurs du bloc opératoire sont d'accord pour pouvoir utiliser cette techno, et surtout, c'est un problème de fond, est-ce que cette technologie va être capable de s'intégrer dans un système informatique tel que celui d'un grand hôpital, en particulier la PHP. Donc le sujet, c'est vraiment d'aller maintenant sur la dimension très large de ce que peut représenter l'AP.
Alors, je suis bien placé pour parler d'attractivité de l'hôpital, étant dans le bain moi aussi. Alors, que faire pour essayer d'améliorer cette attractivité?
Je crois que c'est un vrai problème de fond, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la problématique de l'hôpital aujourd'hui. C'est plus uniquement un problème de moyens, c'est un problème d'envie. L'idée, c'est qu'il faut qu'on redonne aux gens au sens large, pas uniquement aux médecins, au personnel paramédical aussi, de revenir bosser. Et pour revenir bosser à l'hôpital, il faut commencer par expliquer ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est pas tout à fait pareil que la recherche. La recherche aujourd'hui, c'est quelque chose qui est long, très compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour faire de la bonne recherche si on veut faire de la bonne recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre l'importance des connexions qu'il peut y avoir entre des cliniciens et des laboratoires INSERM ou des structures comme l'INRIA qui font des maths. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui est finalement plus rapidement accessible. L'idée, c'est d'être capable d'identifier un problème non résolu dans le domaine du soin et de se tourner vers des start-up qui vont être capables de trouver, d'apporter des technologies pour répondre à cette problématique-là. Et finalement, ce n'est pas tout à fait pareil que la recherche parce qu'il y a un côté plus court-termiste et potentiellement rémunérateur qui va, à mon avis, se développer au sein de l'assistance publique en particulier. Et c'est ça que je pousse, moi, à travers des sujets comme BOPA en local et BOPEX en général.
Eh bien, on vous soutient pour cette mission. Merci beaucoup.
Et voilà, nous étions au salon Meditech les 13 et 14 mars dernier. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.